n'a pas eu jusqu'à présent, puisqu'on a 5 minutes. Si oui. quelqu'un veut, ou quelques-uns veulent poser des questions, une réaction. Nos amis présents ici puissent prendre la parole.
S'il y a du micro, volontiers, mais rapide, alors.
Josiane Savigny, ici, au premier rang. Vous avez bien le micro. Oui, moi, j'ai pas vraiment une question, mais je voudrais apporter un petit témoignage personnel pour appuyer ce que Philippe Solers vient de dire sur la guerre d'Algérie et la manière dont ça a été un passé qui ne passe pas avec Jean Edernallier. Il se trouve qu'au début des années 1990, Jean Edernallier a écrit un livre qui s'appelait « Je rends heureux », c'est-à-dire J.R.H., qui était aussi les initiales de Jean-René Hunin, qui avait été un de vos amis de jeunesse au moment de la création de Tecrem. Dans ce livre, il parlait notamment de la guerre d'Algérie. Il disait deux choses qui m'avaient paru extrêmement choquantes. La première étant qu'il était le seul de ses amis tel quel à vouloir faire cette guerre, cette partie de foulard à poignard réel, disait-il. Mais évidemment, il ne pouvait pas la faire puisqu'il n'avait qu'un seul œil valide, donc c'était assez facile de dire qu'il voulait la faire contrairement aux autres. Et la deuxième chose qui m'avait beaucoup choquée, c'était le récit de sa visite à Philippe Solers dans l'hôpital militaire, disant qu'il était si beau, totalement amaigri, appuyé sur sa canne. J'avais trouvé ça particulièrement obscène. Et il se trouve qu'en rendant compte de ce livre dans le Monde, je l'ai dit. Quelques jours après, Philippe Solers m'a dit « Vous avez touché là à un interdit, vous allez le payer très cher. » Je n'y ai pas prêté attention, je me suis dit « Encore la paranoïa des écrivains, oh là là, ça va bien comme ça. »
Je parlais.
Et le mois suivant a commencé dans l'Idiot International, qui était le journal qu'avait refait Jean Edernallier à l'époque, une campagne de calomnie contre moi, qui a visant à me faire virer de mon journal, qui a duré un an et demi jusqu'à ce que le Monde décide de faire un procès à Jean Garnier. Et voilà, donc c'est bien la preuve que cette affaire de la guerre d'Algérie, c'est un passé qui ne passe pas. Il n'y a pas que l'histoire de Vichy Moscou qui ne passe pas. Voilà.
Merci. Pas bien. Plus que, pas plus que Vichy, Bousquet, voilà, c'est-à-dire les placards français.
Oui, madame. Oui,
non, toi, c'est bon. On va vous donner le micro.
Yes, you may. But in the microphone. In
the microphone. Take the microphone. Sorry, I don't really mind. Oui, mais pour peut-être quelques années. Dès peut-être, tu vas
traduire. Est-ce que vous voulez que je essaye en français? Quelqu'un a dit que vous êtes trop français. Quelqu'un des États-Unis a dit que vous êtes trop français. Il y a les écrivains que vous pensez qu'ils sont très américains ou très anglais. Est-ce que ça existe vraiment?
Comme quelqu'un a dit que tu es trop français, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des écrivains qui sont trop anglais ou trop américains?
Oh, non, très bonne question, merci. Too French, c'est vraiment absolument unique. On ne le dira d'aucun autre pays sur Terre. C'est une formule anglo-saxonne, comme par hasard, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'un livre qui désormais n'est pas traduit en anglo-saxon n'existe pas vraiment sur la planète du marché qu'est devenue la littérature mondiale. On ne dira jamais qu'un Chinois est trop chinois, qu'un Finlandais est trop finlandais, qu'un Russe est trop russe, qu'un Italien est trop italien. En revanche, et c'est là que ça devient très intéressant, trop français, ça suppose une agressivité tout à fait particulière et, à mon avis, tout à fait justifiée. C'est une sorte de... Ah, mais oui, bien sûr. C'est une question de perception, de sensation, de corps. Et donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la peinture française notamment. Vous aurez deux expositions, l'une de Monet en septembre, l'autre de Manet en avril. Il est bien évident que c'est là que quelque chose s'est passé à un moment donné de tellement bouleversant comme littérature, qu'il vaut mieux s'en passer. Donc jamais on ne dira, parce que ce serait indécent, que quelqu'un ait tout ceci ou tout ça. Les French, ah, c'est mauvais. Donc c'est une déclaration ultra-puritaine, et elle est justifiée en tant que telle. Le problème ultra-puritaine, c'est là que tout se passe, en fait. On peut bien définir ce point. Trop français, en revanche, les gens qui me demandent de l'être encore plus, ça viendra d'Asie. Donc, au Japon, par exemple, soyez encore plus français, comme Et ça viendra d'Asie, ça viendra de Chine, avec des vraiment des surprises considérables venant là-bas. Donc, voilà. Je suis un Européen d'origine française qui sera découvert par les Chinois. Mais je n'ai aucune chance aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, je m'en fous complètement.
Il y a des bras qui s'élèvent. Il y a de l'autre côté aussi, sinon...
Oui, c'est une question. Je voulais vous parler de la lecture. Vous nous avez présenté vos diverses naissances en parlant de la physique et de la biologique, celles que vous avez ressenties. Est-ce que nous avons ensuite parlé de votre apprentissage de la lecture? Est-ce qu'au même titre, vous avez ressenti une naissance biologique vis-à-vis de la lecture, puisque je pense que l'écriture est aussi fortement liée à la compréhension et à la lecture? Est-ce que vous avez ressenti ces sursauts, ces niveaux dans la lecture au même titre que dans l'écriture?
Je pense, oui, je pense que le langage, pour l'appeler comme ça, au commencement était le verbe, quand même. Je le crois profondément. Le verbe, ben voilà, débrouillez-vous avec ça, le langage. Le langage était, je pense, Julien Lesséval l'a dit de façon très claire, sympathique et claire. Ça constitue une remise en question permanente. Elle est psychanalyste, donc elle doit savoir ce que c'est que des gens qu'elle arrive à tirer d'abîmes inutiles. Donc parler de renaissance, c'est beaucoup trop dit. Mais enfin, avoir accès au langage, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est absolument miraculeux. Que tout soit fait pour empêcher les gens ensuite de savoir ce qu'il en est du langage, c'est ce que j'ai constaté partout. Entre les langages dans la communication, l'appauvrissement, etc. Enfin, tout ce qu'on peut voir de façon très, très claire, dans le désir tyrannique de contrôler tout avec le minimum de moyens verbaux. Oui, assurément que le langage a une influence même décisive, biologique, oui, c'est certain. On guérit, on renaît un peu, et à vrai dire, on rajeunit.
Exactement.
Merci pour tout d'abord pour cet exercice érudit jubilatoire. Vous avez en fond la ville de Bordeaux. Je voulais savoir si, à part le fait que cette ville a encadré votre enfance et adolescence, vous aviez un attachement particulier avec cette ville, et si oui, pourquoi?
Si j'ai une question.
Si tu as un attachement particulier, en
raison de ton enfance.
Ah oui. Vous avez sans doute appris que, par exemple, le plus gros importateur de vin de Bordeaux sera, avant les États-Unis et le Japon, l'année prochaine, la Chine. Je dis bien du vin de Bordeaux. Donc je vais surfer là-dessus. Pensez bien. Bordeaux en enfin, j'ai parlé de beaucoup d'historicité, mais écoutez, c'est un pays, pour moi, absolument paradisiaque. C'est-à-dire que si vous voyagez vers là-bas, je vous conseille de remonter vers la Gironde, voir ce que c'est que le pays des marmots, des châteaux, etc. C'est un pays absolument paradisiaque. Je vous conseille d'aller voir en haut, là, la Gironde, là où ce que les paysans appellent la Gire. Et Colderly l'a chanté dans un poème fameux qui s'appelle Andenken, qui est absolument la chose la plus extraordinaire qu'on ait dit de Bordeaux. Vous verrez le Mascaret, c'est-à-dire l'eau salée qui rentre dans l'eau de fleuve, avec la confluence d'un Dordogne et de la Garonne, et vous verrez que tout devient rouge, et que vous avez Écoutez, les éloges de Bordeaux sont assez fréquents. Je viens de citer un dernier, mais enfin, prenez le voyage dans le midi de la France de Stendhal, il est absolument ébloui. Pourquoi une telle euphorie lorsqu'il arrive à Bordeaux? Alors que c'est l'Italie quand même qui l'appelle. Il arrive à Bordeaux et alors, c'est sans conteste la plus belle ville de France. Le front et les sourcils des femmes sont absolument extraordinaires. Les femmes brunes sur le sol de soie, disait le dernier déjà. Enfin bon, voilà. Vous prenez Stendhal. Alors, il est ému aux larmes lorsqu'il va au château de la Brède et qu'il voit le coin de cheminée un peu usé par la pantoufle de Montesquieu. Voilà. Ça. Donc, à 12 ans, quand j'ai. Ça a été aussi une révélation, comme des messages personnels pendant la guerre. Voilà un autre message. Un autre type de message personnel, c'est quand on m'a amené voir la tour de Montaigne. Alors on est rentré, j'avais 12 ans, lycée. Alors j'ai vu ce type, j'ai écrit sur des poutres, en latin, en grec, des essais quand même. Et un art de la citation qui a été rarement égalé. Et donc, ce type qui s'enferme, après un voyage en Italie, dont on parle pas assez d'ailleurs, mais qui s'enferme pour écrire sur les poutres des formules, pour se les remémorer, pour les avoir vraiment sous les yeux, c'est étrange, quand même, une sorte de petit sanctuaire, à tour. Voilà, Bordeaux. Un maire de Bordeaux. Quelle ville peut dire. Peut soutenir l'équivalent. Et puis la Boétie. Merci de l'avoir cité. La Boétie est d'une actualité brûlante. S'il y a de la tyrannie, c'est parce que vous le voulez bien. Ça s'appelle la servitude volontaire. C'est là que ça a été pensé.
Je pense que Laurent Blanc va sauver la France. Je pense même que Laurent Blanc va sauver la France.
En tout cas, on est obligé d'aller là, chercher à Bordeaux. Vous aurez remarqué sans doute que quand l'Hexagone s'effondre, c'est récurrent, tout le monde se retrouve à Bordeaux. C'est donc le point le plus éloigné de la capitale. Alors il y en a qui s'embarquent pour résister, d'autres qui votent les pleins pouvoirs. C'est la chambre du Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Vichy, à Pétain, n'est-ce pas ? Pas l'oublier. À Bordeaux. Quand la France s'effondre, on va à Bordeaux. Et on prend le bateau. De Gaulle a pris un petit avion que lui a foutu Churchill, vraiment, c'était tout juste. L'aéroport s'appelle même Mérignac, si vous allez dans la région. À Bordeaux, on va à Londres. On va à New York. Puis on revient, si possible. On ne va pas à l'Est. Alors, il y a aussi une grande différence, mais je finis là-dessus, une grande différence entre les personnes qui sont sensibles avant tout au port et ceux qui sont des continentaux indécrottables, si j'ose dire. Voilà, il y a beaucoup de... Moi, je suis vraiment heureux dans les ports, que ce soit Bordeaux qui appelle Venise, comme tu l'as très bien dit, bon. Ou Hambourg, qui est un port magnifique, où Hitler n'osait pas aller parce que c'était une ville déjà trop anglaise, les ports Barcelone, les ports là. Et puis il y a des gens, au contraire, c'est par exemple Régis Debray qui me dit oh, moi ce que j'aime c'est faire de la montagne, le sac au dos. Enfin, chacun ses goûts. Il y a beaucoup d'écrivains français, beaucoup qui sont du. Un peu de l'Est de la France. Ils font une littérature très honorable. Ils sont, de la Lozère, de la Corrèze, de l'Ardèche, du Cantal, de l'Aveyron. Et souvent, ils n'ont jamais vu l'océan. Le bateau, pour vous.
Il y avait encore des bras levés, je crois, pour poser des questions. Tout à fait en haut de l'auditorium. Levez-vous pour vous voir un peu que vous puissiez avoir le micro.
Ah, il y a quelque chose.
C'est la dernière question, je pense. Sauf si je me suis trompé. J'ai un étonnement qui m'était venu en pensant à cette soirée et un cours que je donnais cette année dans ce lieu où je me donnais l'occasion d'ouvrir le magnifique livre de Gershom Scholem sur les camps pour la mystique juive, où Scholem, dans tout un chapitre, dit de prouver que le Zohar a un seul auteur. Quand on est dans ces milliers et milliers de pages, on se dit, existe-t-il un auteur? Et Scholem donne ce principe. Je pense que ce soir, on est allé encore plus loin. Il dit, au fond, beaucoup de gens supposent que c'est impossible qu'il y ait un auteur pour une telle œuvre, et il répond, c'est précisément le contraire qui est vrai. Si un homme écrit sous le coup de l'inspiration, s'il a trouvé un principe d'Archimède autour duquel son monde spirituel est centré, il est vraiment facile pour lui de produire des milliers de pages dans un temps très limité. Et j'en étais là jusqu'à ce soir de me réjouir d'avoir quelqu'un qui, parmi nous, vivant, bien vivant, produisait librement les milliers de pages que nous pouvions régulièrement trouver dans nos souliers de la cheminée de Noël. Et en fait, ce que nous avons entendu ce soir, me semble-t-il, c'est qu'il ne s'agit pas de trouver des milliers de pages. Il s'agit d'entendre. Écrire s'entend. Et lire, c'est choisir. Je crois que ces deux choses manifestent à quel point, Philippe Solers, vous êtes un homme du verbe, et en ce sens, profondément dans l'essence de l'art.
Schéma.
Merci.